8h25, on va surveiller de près l'intervention lundi du premier ministre du Québec, François Legault, qui veut clarifier la position de son gouvernement et des ministères impliqués, que ce soit celui de la santé et surtout de l'éducation, à quelques jours, à quelques semaines, disons, de la rentrée. Annonce importante parce que Québec se prépare. Ça ne veut pas dire que c'est garanti et obligatoire, mais Québec se prépare pour ce qu'on appelle une deuxième bataille. Pas nécessairement une deuxième vague, mais ce qu'on appelle une deuxième bataille, parce qu'il va y avoir plus de mouvement, il y a une reprise des activités, les jeunes vont se retrouver. Et là, la question est de savoir, est-ce que les mêmes consignes s'appliquent à tous les niveaux d'éducation, élémentaire, secondaire? Beaucoup de questions, donc beaucoup de préoccupations. François Marquis, que vous connaissez bien, le docteur François Marquis, est interniste et chef de l'unité des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Docteur Marquis, bonjour.
Bonjour.
C'est pas garanti, ça vient pas avec le manuel d'instruction qu'il y a obligatoirement une seconde vague.
Non, effectivement, et bien, c'est juste qu'elle est très probable. Maintenant, tout le monde parle d'une seconde vague, et j'aime beaucoup d'entrée de jeu quand vous avez dit qu'elle n'aura pas la forme de la première, et je crois que c'est un élément qui est extrêmement important. Peu de personnes croient que ça va être une répétition de ce qu'on a déjà vu. Ça risque beaucoup plus d'être une série de petites éclosions à gauche, à droite, dans des milieux différents, qu'il va falloir contrôler justement pour empêcher que cette vague-là se crée. Et je pense que c'est là l'élément de vigilance et c'est là l'élément d'importance pour le gouvernement d'annoncer quelles seront les mesures pour surveiller et comment on va repartir la machine sociale.
Donc, vous voyez, Dr Marquis, se dessiner des situations où on va regarder des éclosions ponctuelles sur un territoire bien déterminé, plutôt que dire tout le monde, on retourne au confinement.
Bien, je pense que c'est probablement ce qui va arriver. Là, on a vu là, l'espèce de dichotomie Montréal-Reste du Québec. Je ne m'attends vraiment pas à ça pour la deuxième vague. Ça, c'est à quoi je m'attends. On a eu beaucoup de mouvements pendant les vacances de construction, donc je pense qu'il va y avoir une égalisation des régions, c'est-à-dire qu'on devrait voir des petites éclosions apparaître dans toutes sortes de régions qui avaient été épargnées au préalable. Et ça, je pense que le message de la deuxième vague, c'est écoutez, vous avez peut-être été complètement épargnés par la première, bravo, on est content pour vous autres. Maintenant, ne dormez pas, restez aux aguets, parce que la deuxième vague va être différente. Et là, c'est pas parce que vous avez été protégés la première fois que l'histoire se répète. Et ça, je pense que c'est la question de la vigilance, elle est là. J'imagine facilement que dans des beaux petits villages pittoresques qui ont eu le droit d'avoir beaucoup de visites pendant les vacances de la construction, des régions éloignées, qu'il va y avoir des éclosions, ce qui va mettre un défi particulier sur les ressources de santé de ces régions-là qui n'ont peut-être pas accès à tout rapidement, là.
On a vu passer une étude, un rapport, parce qu'on apprend tellement de choses encore sur non seulement la COVID, mais le coronavirus comme tel, la base même de la transmission. Mais on a vu passer ce chiffre, et j'aimerais ça que vous puissiez le commenter, François Marquis. On disait que seulement 2,25% de toute la population québécoise était d'une certaine façon immunisée contre la COVID, parce que des gens qui l'ont eu et qui ont récupéré. Il me semble que cette immunité là de masse n'est pas tellement élevée. Trouvez pas ça inquiétant?
Bien, quand on fait un confinement complet comme on a fait, on joue dans les pattes de l'immunité de masse. Hein. La meilleure façon d'avoir une immunité de masse, c'est de faire un party de varicelle, et on a dit à peu près 1 million de fois que c'était complètement dangereux et stupide de faire ça avec la COVID, mais c'est certain qu'à 2 point quelques pourcents, c'est pas ça qui va nous donner une immunité de groupe qui est suffisante. Mais, d'un autre côté, c'était pas ce qui était souhaité. On ne cherchait pas, la première vague, à faire en sorte qu'on ait notre fameux 80% d'immunité de groupe.
Mais non.
Ça aurait fait exploser le système de santé.
Oui, ça, évidemment, vous avez parfaitement raison. Mais c'est parce qu'on compare souvent avec la stratégie qui a été utilisée en Suède, où on a gardé les écoles ouvertes et on n'a pas confiné les gens. Quoique les Suédois déjà étaient habitués au télétravail, alors donc avant même l'arrivée de la pandémie. Et en Suède, les résultats ont été, disons, moitié-moitié. Il y a eu une vague importante. Il y a eu beaucoup de décès, particulièrement d'ailleurs dans les résidences pour aînés. Hein, c'était le cas partout. Mais docteur Marquis, on a remarqué que ce pourcentage-là d'immunité collective en Suède est beaucoup plus élevé que dans les autres pays.
Mais oui, et c'est logique, ça surprend personne. La chose, c'est que pour nous, si on avait fait quelque chose de similaire à ça, je crois personnellement que notre système de santé aurait eu des ratés majeurs. On n'aurait pas été, en tout cas particulièrement à Montréal. Oui, il y a des régions qui auraient pu accommoder plus de patients COVID et donc, je pense par exemple à Québec, mais à Montréal comme tel et dans l'est de Montréal, si on avait fait une stratégie de style Suède, on aurait eu un bilan qui aurait été encore beaucoup plus triste que ce qu'on a eu présentement. Je pense que nous, on a fait la bonne chose avec les moyens qu'on avait à ce moment-là, avec notre densité de population aussi. Si on regarde un peu New York, ils l'ont pas vraiment souhaité, mais c'est à peu près ce qu'ils ont fait, puis on a vu ce que ça a donné. Je pense que, somme toute, on a pris la bonne décision ici. Maintenant, en réouvrant les écoles de façon intelligente, en planifiant comment on va passer à travers cette deuxième vague ou cette deuxième manifestation-là de la COVID, c'est là qu'on va bâtir notre immunité collective puis qu'on va faire en sorte qu'on va pas vivre confiné pour le prochain 50 ans.
Alors, évidemment, dans les choses que je disais qu'on apprend régulièrement, il y a toutes sortes de rapports qui en arrivent à des déductions. Comme celle-ci, Dr Marquis, qu'est-ce que vous en pensez? Le rhume pourrait nous protéger de la COVID. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait enrhumé aurait développé des anticorps qui protégeraient contre le coronavirus.
OK. Ça, c'est le genre de nouvelles pour lesquelles il faut faire attention. Parce que c'est comme les légendes. Il y a un fond de vérité, puis après ça, on en fait n'importe quoi. Donc, il est vrai que quand on fabrique nos anticorps, chaque personne va fabriquer ses propres anticorps. Moi, face à une maladie, vous, face à la même maladie, nos deux anticorps ne seront pas pareils. Et des fois, par le jeu du hasard, quelqu'un va se fabriquer un anticorps pour une maladie X et cet anticorps-là va aussi fonctionner pour une maladie Y. Exactement comme une clé passe-partout qui est capable d'ouvrir plus qu'une serrure sur des portes différentes. Sauf que ce problème-là, cette particularité-là qui est bien connue en médecine est complètement liée au hasard. C'est aussi dangereux de dire « Ah, ben moi, j'ai fait des grippes dans le passé, donc je dois être immunisé » que de baser sa vie en disant « J'ai prévu gagner le loto, donc j'ai pas de problème, je vais m'endetter, je vais brûler la chandelle par les deux bouts, il n'y a pas de problème, je vais gagner le loto dans un mois. »
Ouais. Mais c'est intéressant comme approche.
mais oui, et c'est vrai, on le sait, et il y a des gens, si on veut pousser plus loin que ça, il y a toujours des gens sur Terre qui sont immunisés contre une maladie comme telle, et on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui ne peuvent pas attraper certaines maladies infectieuses. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas identifier qui. Je n'ai pas de test pour être en mesure de vous dire, vous savez, vous, on ne sait pas pourquoi, mais vous ne pouvez pas attraper la COVID-19. Il n'y en a pas de test pour ça. Donc, c'est une nouvelle, oui, c'est vrai, c'est factuel, mais c'est complètement inutile.
OK. Alors ça, c'est intéressant quand même. Et il y a une autre théorie, vous connaissez le docteur Gaston Deserre, qui avance ceci. Il dit, on est tellement prudent maintenant, avec le port du masque, le lavage des mains, la distanciation, que ça devrait avoir un effet pour nous permettre d'éviter, d'une certaine façon, la grosse période de grippe, d'influenza qui nous touche à chaque année. Donc, ça pourrait être moins pire qu'on le pense, que l'influenza s'ajouterait pas à la COVID.
Ça, en fait, ça pourrait arriver parce que quand la première vague nous a frappé, on était sur la fin de l'influenza, mais on n'avait pas terminé l'influenza. Et on a vu dans les centres universitaires la dispersion complète de l'influenza parce que tout ce qui est bon comme règle de distanciation sociale pour nous prévenir de la COVID-19 fonctionne très bien contre l'influenza. Et on a vu complètement disparaître nos cas d'influenza. Et c'est vrai que l'influenza est une pandémie aussi, qui fait le tour de la Terre depuis des années et qu'on réussit pas à endiguer, entre autres parce que ce virus-là est différent, il mute. Maintenant, je crois effectivement que cette distanciation-là sociale, le lavage de mains, toutes les mesures anti-COVID vont peut-être faire en sorte que la grippe va frapper moins fort cette année, Mais en parallèle à ça, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on c'est certain qu'il va y avoir des malchanceux qui vont quand même attraper l'influenza.
Ouais, ouais.
Et est-il possible d'avoir une influenza en même temps qu'une COVID-19? On n'a pas pu voir ça pendant la première vague. Ça a pas, ça a juste pas, c'est pas arrivé. Mais les deux ensemble, là, on pourrait multiplier l'impact sur la population. Et ça, c'est inquiétant d'un point de vue médical, juste parce qu'on a un gros point d'interrogation. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait juste pas
incroyable.
Encore.
Quand on va avoir la grippe, on va faire,
ouais.
On va penser qu'on
on
a
va
la COVID.
Qu'on a la COVID.
En fait, ça, c'est un casse-tête effrayant pour les gens à l'urgence.
Pour vous, là! Pour oui. Les médecins, pour les infirmières.
Comment on va cohorter quelqu'un qui va arriver
ouais.
Et qui n'aura pas là des symptômes classiques COVID. Là. Mettons qu'il n'y a pas l'anosmie, là. Puis qui arrive et qui fait juste dire « Je me sens pas bien, j'ai mal partout, je fais de la fièvre, puis je tousse. »
Aïe, aïe.
Là, il va falloir cohorter ces gens-là. Et habituellement, ce qu'on avait tendance à faire, c'est de mettre tous ceux qui avaient des symptômes respiratoires à peu près ensemble en disant
ouais. « Ben,
c'est une influenza. »
Ah, ça va prendre comme à votre hôpital, Maisonneuve-Rosemont, un triage.
Ah, ça va être impressionnant. Et c'est là que les dépistages vont devenir importants. Donc, il va falloir garder les gens physiquement séparés les uns des autres, ce qui, chez nous, amène un défi de gestion d'espace et avoir des tests rapides. Et j'ai besoin soit d'un test COVID très rapide, soit d'un test influenza très rapide.
Oui.
Parce que si je fais le test d'influenza qui revient positif, bon, après ça, je peux attendre le test COVID. Si le test influenza est négatif, je vais prendre pour acquis que c'est un COVID.
Aïe, aïe, aïe.
Mais ça va amener une double pression sur les laboratoires parce que c'est pas mal les mêmes machines qui font les détections de COVID que les détections d'influenza.
On est dans un monde, François Marquis, qui est fascinant, mais on pourrait bien s'en passer. Quel défi important pour le milieu de la santé. Merci beaucoup, Dr. Marquis.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Thérèse, maudite bonne question. Tu te lèves un matin, puis tu dis, « Oh, je file pas, il y a mal partout. » La peur s'installe.
Mais c'est ça.
Et le Dr. Marquis dit, « Imaginez-vous, vous rendez à l'hôpital. » Et là, le triage va dire, « Qu'est-ce qu'elle a,
Paul,
exactement? »
Je suis jamais allé à l'hôpital pour une grippe. Heureux.
Moi
jamais.
Non plus. Moi non plus.
Je sais que c'est ça.
Moi non plus.
Je me pose pas la question. Là, je ne sais pas si... Je sais pas.
Mais c'est-à-dire, personne ne le sait. Et là, vous allez vous poser la question. Et pensez-vous qu'à l'hôpital, ils ne vont pas se poser la question eux aussi? Et le Dr. Marquis a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement important. Combien de temps le test pour savoir si oui ou non vous avez des symptômes qui vont vers la COVID ou ça va vers l'influenza, la grippe, mettons.
Ah,
et là, vous allez sortir de l'hôpital en disant
«
Ouf, je suis soulagé, je n'ai qu'une pneumonie.
Ouais. » Mais si tout le monde fait ça, les hôpitaux vont être engorgés.
Mais c'est ce qu'il vient de dire. Alors, très importante intervention du premier ministre Legault, notamment sur l'avenir de notre rentrée scolaire. Très important lundi.